Radio Barque, pour ce 31e, nous recevons Éric Camus, le procureur de la République de Narbonne. Nous avons évoqué un certain nombre de généralités sur votre fonctionnement, à la fois votre rôle de procureur et la justice en général. Revenons encore quelques instants sur alors les peines alternatives. Bon, on a évoqué, vous l'avez expliqué, la nécessité de l'application, par application de la loi, de ne pas incarcérer systématiquement les gens. Vous avez expliqué pourquoi. On parle parfois également, pour des peines plus légères, j'imagine, de TIG ou travaux d'intérêt général. Pouvez-vous en dire deux mots, monsieur le procureur ?
Oui, alors, il existe une échelle des peines. La plus lourde, bien évidemment, c'est la peine d'emprisonnement, la peine d'amende, la peine de confiscation. S'agissant de la peine d'emprisonnement, la justice n'hésite pas à incarcérer. Contrairement à ce que certains peuvent penser, il suffit simplement de lire les journaux ou de venir à l'audience de comparution immédiate pour les faits les plus graves. J'ai pu requérir et le tribunal a pu prononcer des peines de 5 ans d'emprisonnement, de 7 ans d'emprisonnement. En matière criminelle, tout le monde voit bien que ce sont des peines de 20 ans, de 30 ans de réclusion criminelle qui sont prononcées lorsque les personnes ont révélé une véritable dangerosité et lorsque les faits qu'elles ont commis est suffisamment lourd, suffisamment grave pour le justifier. Mais en même temps, il est important que la justice, qui doit toujours être à dimension humaine, s'attache à être adaptée et proportionnée à la gravité de l'infraction commise et à la personnalité de celui qui en est l'auteur. Et force est de constater que lorsque nous regardons la personnalité de ceux que nous jugeons, nous y voyons beaucoup de personnes qui sont soit des fracassés de la vie, soit des personnes qui souffrent de troubles, soit des personnes qui sont dans une véritable situation de souffrance personnelle, de difficulté personnelle. Et donc l'objectif de la justice, à condition que la gravité des faits l'autorise, si ce sont des faits trop graves, des peines alternatives ne sont pas envisageables. Mais lorsque les faits le permettent, d'envisager d'autres peines que celles de la prison. Alors vous avez évoqué le TIG, le travail d'intérêt général, où la personne va devoir exécuter un certain nombre d'heures de travail gratuit au bénéfice de la collectivité. Mais il y a plein d'autres peines qui font partie de ces mesures alternatives, et notamment parce que c'est une volonté forte du législateur et du ministère de la Justice, le développement de stages, où des personnes sont condamnées à payer pour réaliser un stage de sensibilisation sur un certain nombre de thématiques essentielles, par exemple tout ce qui relève de la sécurité routière, tout ce qui relève de l'usage de stupéfiants, également pour les violences conjugales ou encore ce que nous appelons des stages de citoyenneté. Et dans ces stages, un certain nombre de partenaires institutionnels interviennent pour parler de leur métier, de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont, et surtout amener les personnes à réfléchir au passage à l'acte. Alors il est évident que ces stages ne valent qu'une fois, et si la personne n'a pas compris quelle était la portée de ce stage et se trouve en récidive légale, en d'autres termes a commis des faits identiques ou assimilés par rapport à ce pourquoi elle a été condamnée, à ce moment-là, on envisage une peine beaucoup plus lourde.
Mais il s'agit d'essayer de guérir, même si ça n'est pas le mot qui convient le mieux.
En tout cas, de participer à la compréhension de ceux qui commettent des infractions, de ceux qui vivent en collectivité. Et la vie en collectivité, ça n'est envisageable que s'il y a des règles. Et ces règles-là, il faut les respecter.
Et pour les peines de prison, alors les plus légères, les plus courtes, on parle de, par exemple, rester chez soi avec un bracelet électronique.
C'est en effet des modalités d'adaptation de la peine où souvent des victimes nous font le reproche, ou en tout cas commentent ce type de mesure en disant « mais quelque part c'est pas la prison, donc est-ce que véritablement les personnes sont condamnées ?» Lorsque vous voyez toute la difficulté qu'expriment les condamnés à subir ce type de peine parce que ils sont enfermés chez eux, je donnerai simplement un exemple. Tout le monde a vécu le confinement il y a maintenant 3 ans. Je ne suis pas certain que nos concitoyens aient fondamentalement bien vécu le fait de devoir rester confinés pendant 1 mois, 2 mois, 2 mois et demi dans leur appartement ou dans leur maison. Alors pour ceux qui avaient la chance d'avoir une maison avec un jardin, la chose peut être différente, mais pour ceux qui ont un appartement dont ils ne peuvent pas sortir, je crois que c'est une expérience qui, quelque part, leur permet de prendre la mesure de ce que vivent des personnes qui parfois sont condamnées à 6 mois à porter un bracelet électronique où elles ne peuvent tout simplement pas sortir de chez elles.
Et là, il y a des véritables contrôles.
Ah oui, c'est un contrôle électronique. Donc, si vous sortez, automatiquement, le signal d'alerte retentit et vous êtes en infraction.
Et alors, qu'est-ce qui se passe
Il se passe ce qui se passe à chaque cas, c'est-à-dire qu'il y a une vérification qui est faite. Et si c'est la personne qui a volontairement transgressé, elle est à ce moment-là convoquée pour ses explications par le juge d'application des peines et peut se voir retirer le bracelet et à ce moment-là partir en détention.
Voilà, donc il y a un suivi très sérieux. Et de par ce contrôle électronique, il y a une efficacité garantie.
Ah, elle est mécanique.
Oui, absolument.
Tout à fait.
Éric Camus, donc, monsieur le procureur, on va parler d'un certain nombre d'actions spécifiques avec des partenariats que vous êtes en train de mettre en place petit à petit et vous avez déjà commencé. Partenariat avec l'hôpital, par exemple. Mmh. Ça peut surprendre, a priori, un partenariat entre le ministère de la Justice et le ministère de la Santé. Et pourtant, ça, c'est le cas et de plus en plus.
Oui, tout à fait. Cela renvoie à une politique de modernisation du fonctionnement de la justice en général, pour Narbonne en particulier, parce que c'est vrai que j'ai la chance de travailler avec Richard Barthes et son équipe, qui est le directeur de l'hôpital. Et force est de constater que nous sommes dans une synergie extrêmement positive qui a conduit à mettre en place une unité de médecine légale, puis une unité d'accueil pédiatrique enfants en danger. Demain, un service d'accueil et de prise de plainte au sein même de l'hôpital. Là, actuellement, nous sommes en train de construire un service d'urgence psychiatrique. En réalité, cela renvoie à des directives qui nous ont été adressées par le garde des Sceaux, qui nous a demandé d'investir la mise en place de ce que l'on appelle le parcours victime et qui s'inscrit pleinement dans l'ensemble des dispositifs qui ont été mis en place. Le principe de base, c'est faire en sorte que les victimes n'aient pas à se déplacer. Il faut que ce soit la justice, les services qui aillent vers les victimes parce que le traumatisme qu'elles subissent, je pense notamment victimes de violences conjugales, fait qu'elles sont extrêmement fragilisées et il est essentiel que ce soit les services qui aillent vers elles. Donc ce parcours victime, puisque c'est celui dont je vous parle, c'est d'abord cette unité de médecine légale qui se trouve en face des urgences, ce qui fait que la personne qui est prise en charge par les urgences en fonction de la gravité des violences qu'elle a pu subir, eh bien, a à sa disposition un service médico-légal avec un médecin légiste qu'elle peut rencontrer directement à l'unité de médecine légale. Et demain, qui viendra la voir au sein de l'hôpital dans une salle dédiée avec une infirmière qui est spécialisée en la matière, avec une psychologue. Et la psychologue est vraiment essentielle, on l'a découvert sur les premiers mois d'expérience, parce que c'est celle qui va permettre à la parole de se libérer. Et va permettre à celle qui... alors je dis celle parce que la plupart du temps, même la quasi-totalité des hypothèses renvoie au fait qu'il s'agit de femmes, va pouvoir exprimer des choses, poser une parole et déposer ce qu'elle a subi, le déposer et le donner à la justice, à charge pour elle de faire ce travail, et d'abord dans sa dimension médicale. Également, l'unité d'accueil pédiatrique pour les enfants en danger. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel nous étions extrêmement attachés avec le directeur de l'hôpital Richard Barthes et avec le docteur Seba qui dirige le pôle psychiatrique de l'hôpital. Et c'est un accueil professionnalisé d'enfants en très très grande souffrance avec là encore un parcours qui a été mis en place. Et demain, une salle dédiée pour la prise de plainte, parce qu'une prise de plainte n'est pas un acte anodin, je crois que tout le monde en a parfaitement conscience, mais c'est le fait que, notamment en matière criminelle ou lorsque ce sont des mineurs qui sont victimes, la loi exige que l'audition soit filmée. Eh bien, cette audition filmée aura lieu au sein même de l'hôpital, avec des moyens qui seront mis en place par intermédiaire de l'association d'aide aux victimes, parce que nous avons, avec l'ANAVAGI, donc l'Association Narbonnaise d'aide aux victimes Action Justice, un partenariat très fort pour l'accompagnement, l'information, le soutien des victimes dans toute la dimension présententielle avant donc l'audience, mais aussi dans l'accompagnement postérieur.
Deux demandes de précision. Quand vous dites enfant en danger, c'est pour des raisons de violence ou des raisons de santé ?
Toutes les situations qui font qu'un enfant se trouve en danger, mais par le fait d'un tiers. Vous avez aussi bien des enfants qui sont victimes de violences caractérisées que des enfants qui subissent des situations d'abandon qui en soi peuvent être constitutives d'une infraction pénale. Des enfants en très très grande souffrance psychiatrique et qui réclament d'abord une évaluation pluridisciplinaire. Et c'est ce qui a été mis en place par l'hôpital de Narbonne. Et je crois qu'il faut vraiment saluer ce tour de force d'avoir réuni sur un service commun pédiatres, pédopsychiatres, psychiatres, accompagnants en lien avec l'unité de médecine légale. Et vous voyez une véritable force d'action dans l'intérêt des mineurs qui aujourd'hui est présente et s'inscrit dans le prolongement du dispositif que nous avons mis en place avec le directeur de l'hôpital.
Voilà, mais c'est assez vaste finalement comme domaine.
Oui.
Un médecin légiste, ça veut dire quoi exactement pour le commun des mortels ?
C'est un médecin obligatoirement, mais qui dispose d'une compétence particulière dans la connaissance médico-légale. Un médecin légiste, c'est par exemple celui qui va réaliser les autopsies. Donc il faut des connaissances particulières sur le corps humain, mais aussi sur la justice, savoir ce que la justice attend, ce dont elle a besoin, qu'est-ce que la manifestation de la vérité.
Dans le cas des violences conjugales, donc oui. On a besoin de ce type de médecin.
Oui, parce que c'est le médecin légiste qui va évaluer ce qu'on appelle l'incapacité totale de travail, c'est-à-dire la souffrance endurée qui rentre pleinement dans la caractérisation de l'infraction et surtout dans l'indemnisation de la victime.
Oui. Éric Camus, encore un point, encore une sorte de partenariat que vous avez d'ailleurs, je crois, mis en place récemment et signé. C'est alors ce que vous avez appelé les scellés du cœur. Ça mérite explication.
Alors ça, ce sont les journalistes qui ont donné cette dénomination qui est plutôt opportune. En effet, lorsque des biens sont saisis par la justice dans le cadre d'enquête judiciaire, le tribunal est amené à se prononcer sur le devenir de ces biens. Cela peut être soit des pièces à conviction, soit des biens patrimoniaux, parce que nous avons une action forte en matière de lutte contre les enrichissements illicites, et le tribunal peut être amené à confisquer. Confisquer une voiture, confisquer des sommes d'argent, confisquer une maison, confisquer tout bien dont l'origine est frauduleuse ou dont la personne ne peut pas justifier de l'origine.
Et habituellement, qu'est-ce qui se passe ? Que deviennent ces objets confisqués ?
Alors, ces objets confisqués sont en principe vendus aux enchères. Et l'argent revient au budget de l'État. Mais il existe des biens qui ne sont pas vendables parce que leur valeur de réalisation est très faible. Et dans ces cas-là, la loi prévoit qu'ils soient détruits. Et donc, notamment, c'est l'exemple que je donnais, où les services de gendarmerie avaient saisi tout ce qu'il y avait dans une épicerie en lien avec un trafic de tabac et un trafic de stupéfiants. Le tribunal a prononcé la peine de confiscation. La vente aux enchères de produits de consommation courants était assez peu opportune, sachant que le prix de l'opération allait être plus important que sa valeur de réalisation.
Dans ces cas-là, on
dit au procureur de la République, vous avez la possibilité de faire autre chose que de détruire ces biens. Et la destruction m'apparaissait complètement inadaptée. Et en l'occurrence, c'est dans ce cadre que cette convention a été signée avec les Restos du Cœur et avec la Croix-Rouge, puisque ces biens sont donnés.
Et ces biens leur sont remis. On marque, Éric Camus, une seconde pause. On se retrouve pour une troisième partie.